Bonjour.
Ah, tu peux entrer.
Merci.
Ici, on est chez Misao, la maison des poivres. Donc ça, c'est l'endroit dans lequel je me suis posée il y a 4 ans, parce que j'ai commencé les épices il y a environ 10 ans, et qui est une boutique, en fait, où tu vas avoir une sélection de poivres du monde, la plus grande, je pense, de Belgique, et aussi toutes sortes d'épices. C'est un bar à épices.
Sandrine Vaslin-Kabunga, chasseuse d'épices et créatrice de la marque Misao et de la maison des poivres à Bruxelles.
Je t'en fais sentir un ?
Yes.
Alors, ici, je vais te montrer un poivre du Congo, qui est le poivre des gorilles. Après, tu as ça qu'on travaille avec des coopératives à Madagascar qui nous ramènent le poivre sauvage de Mada.
Ah, c'est marrant comme...
Très différent.
Ouais.
Celui-là, il est plus vert, frais, végétal. Puis troisième, qui est hyper à la mode pour le moment avec les pâtissiers, les brasseurs, les chefs. Ça, c'est ce que je vais. C'est le poivre de Timut du Népal. Ce que je vais appeler, ça, c'est les poivres agrumes. Et cette famille d'épices-là existe aussi en Afrique. Et là, j'en ai un du Cameroun, la même famille que ceux-là. Tu vas retrouver le côté agrumes. Et donc, ça, c'est Ganchou. Tu vois ?
Mais c'est marrant parce que ceux-là, si je les sens sans que tu me dises que c'est du poivre, je me dis pas c'est du.
Ah,
c'est...
tu vois. Quand on est revenu du Congo, ici en Belgique, même si mon père était français, il travaillait pour une société belge, donc on nous a rapatriés en Belgique. C'était pas notre environnement naturel, on connaissait pas en fait. Nous, c'était toujours entre le Congo, ou bien quand on venait en vacances, on allait en France. Et donc, on arrive ici, ma mère se réadapte très vite, mais on était les premiers vraiment de la famille biologique de ma mère à être ici. Et au fur et à mesure, elle se dit, au fait, j'adore les bons produits, j'adore cuisiner. Et donc, elle se lance dans l'aventure, je te parle du début des années 1980, avec une de ses connaissances, ici à Bruxelles, une dame camerounaise. Et elle décide à deux d'ouvrir un restaurant de spécialité. Et à ce moment-là, vu que ma mère était l'associée secondaire, ils appellent ça de spécialité franco-camerounaise. Et le franco-camerounaise, non, le franco, en fait, c'est ma mère qui amène ça. Mais en cuisine, elle va amener des plats congolais. Et elle va apprendre de son associé tout ce qui est cuisine camerounaise. Mais le restaurant était en plein Matongé et le restaurant était fréquenté vraiment la partie africaine, mais majoritairement par des Congolais. Et tout ce que moi je voyais en cuisine, c'était, elle faisait autant du coco vin qu'elle allait faire des libokés, donc des cuissons en papillote dans des feuilles de palmier. Moi, j'ai grandi là-dedans et moi, mes mercredis après-midi, je prenais le tram. Je ne pouvais pas rester seule à la maison. Et donc, j'allais rejoindre ma mère au restaurant. Donc, j'allais au Matongé, qui était très différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je passais mon après-midi dans ce quartier. Et je voyais un peu tout ce qui se développait à l'époque. Tu avais déjà cette tendance congolaise, Afrique de l'Ouest. Elle était là, elle mettait un peu aussi le tempo avec sa partenaire, où les gens venaient découvrir les deux, où les Congolais étaient prêts à « Ah, c'est quoi ce ndolé ? Ah, on va essayer un peu cette cuisine aussi. » Et donc, à l'époque, moi, j'ai baigné là-dedans. Mais nous, quand on est arrivés à Bruxelles, un des ex-collègues de mon père nous trouve, il avait un meublé dans lequel il a investi, à Saint-Gilles. Vraiment dans le cœur de Saint-Gilles. Mais le cœur de Saint-Gilles, ce n'était pas le Saint-Gilles bobo d'aujourd'hui. D'abord, c'était les communautés qui étaient là, portugais, italiens, espagnols, marocains, mais c'était les nouveaux arrivants dans l'Union européenne. Donc moi, j'ai grandi, j'allais manger dans le quartier chez tous les amis de l'école, marocains, tunisiens, espagnols. Il y avait un peu, même pas encore, les Grecs n'étaient pas encore vraiment présents. Et le dimanche, toutes ces communautés se retrouvaient où ? À la gare du Midi. Et autour de la gare du Midi, il y avait des maisons populaires où on allait manger ou espagnol ou portugais ou marocain ou tunisien et les communautés se retrouvaient là. Donc pour moi, je voyais comment, dans cette partie très populaire de Saint-Gilles où on était, comment ça se développait entre là et la porte de Namur, le Matongé. J'ai grandi dans ces cuisines-là, j'ai grandi dans ces cuisines méditerranéennes. Les petits copains de l'école où leurs parents tenaient ce qu'on va appeler aujourd'hui un kebab. mais on allait, on découvrait un peu toutes ces nouvelles saveurs. On découvrait un peu, bah tiens, quand on va chez un tel, là-bas on mange que du mouton souvent, pas de côte de porc là-bas, mais c'était déjà là. En grandissant, après, ma mère est sortie un peu de tout ça, et je voyais surtout ce qui émergeait et ce qui s'installait de mieux en mieux, ça allait être surtout dans les communautés d'Afrique du Nord, où tu pouvais aller manger dans les très bons restaurants marocains, tunisiens, et puis les restaurants turcs. Donc on n'était pas seulement dans le kebab du quartier, mais voilà, on mangeait de mieux en mieux, des restaurants assez familiaux, des concepts dans les années 90, voilà, de plus en plus sophistiqués, vers la rue d'Ansar qui commençait à être à la mode. Mais les cuisines afro, vraiment subsahariennes, je pense, sont restées un peu à la traîne. On est resté un peu dans le maquis, voilà, le petit restaurant voilà, au Matongé, pas plus. Il n'y avait pas grand-chose qui se développait, à part quelques exceptions. Un ou deux restaurants, il y avait le Gris-Gris à Uccle, une ancienne fermette qui était, où on mangeait très bien. Il y avait le Vieux Mila, évidemment, à Saint-Gilles, le restaurant camerounais. Mais à mon sens, il n'y avait pas énormément qui se développait. Il n'y avait pas énormément jusqu'à ce qu'il y ait d'autres vagues d'immigration. Les Éthiopiens, Érythréens, Somaliens ont commencé à avoir des petites choses. Mais je trouve que c'est encore assez timide à Bruxelles.
Dans cette période 64-74, l'immigration, elle est pensée comme étant temporaire.
Hajar Oulad Ben Tayeb, historienne et socio-anthropologue à l'UC Louvain, Saint-Louis.
On va parler du phénomène du mythe du retour, parce qu'en fait, autant ces familles réorientent leurs projets, autant ça se fait dans un contexte qui est très tendu, puisque au moment où le gouvernement décide de fermer les frontières, bien, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la crise économique, c'est la montée du chômage, et où il y a un discours xénophobe, raciste, assez important, que ça soit, et assez décomplexé aussi, hein, dans la sphère politique, dans la sphère médiatique. C'est des programmes politiques qui vont se construire à ce moment-là aussi sur ces projets de retour de ces populations étrangères qui sont bien entendu responsables de tout ce qui ne va pas dans la société. Dans les années 80, d'ailleurs, c'est assez symptomatique puisqu'on voit justement les partis d'extrême droite revenir un petit peu au devant de la scène, au niveau francophone notamment, et qui vont vraiment s'emparer de cette question de l'étranger, du retour vers leur pays d'origine et le mettre vraiment en priorité dans leur programme politique. Et donc, cette réorientation du projet migratoire, elle se fait dans ce contexte assez tendu de rejet aussi d'une part importante de la société et d'une nécessité de se construire aussi et de réimaginer cette présence de manière plus durable. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on voit ces familles migrées qui vont réinvestir dans cette société qui n'est plus celle des autres, mais aussi la leur. On va le voir, le développement, par exemple, des mosquées, des espaces culturels.
Donne-moi, je vais...
Ils ont déjà pris une,
hein. Oui, c'est bon. On va servir la soupe. C'est l'heure de manger. Donc, alors, on prépare maintenant la soupe. C'est harira. C'est ça?
Harira, ouais. Donc là, ouais, c'est remplir les bols un peu à la chaîne pour que tout le monde ait sa soupe.
Oui, apparemment, je ne sais pas, on a au moins 70 personnes ou 80 personnes aujourd'hui. Donc on sert des 6 en 6. Les gens ont faim, ils n'ont pas mangé toute la journée. Donc on est content avec ces moments.
Quand on interroge les pratiques alimentaires et culinaires, ben, la question de la tradition et de la mémoire de cette tradition et de ce qu'on a appris ressort quand même. Donc c'est intéressant de voir comment elle s'ancre dans justement ces choix, ces pratiques et ces objets, ces ingrédients.
Elsa Mescoli, chargée de cours en anthropologie des migrations à l'Université de Liège. Elle est la directrice adjointe du CEDEM, le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations. Elle a réalisé sa thèse sur le quotidien de femmes marocaines qui ont migré en Italie.
Ce qui était très intéressant, c'était les récits autour de certains ingrédients qui, en fait, favorisent le rapprochement avec la spiritualité. Donc, ce n'était pas que des interdits, mais aussi justement des ingrédients qui amènent quelque part à élever l'âme, en tout cas à atteindre un état de spiritualité qui semble voilà, approprié ou qui fait du bien quelque part, etc. Donc c'était non pas, disons, des aliments qui ne peuvent pas être consommés, mais aussi et surtout des aliments dont on promeut la consommation pour des questions aussi religieuses. Et donc, parmi ces aliments, c'était souvent mentionné l'huile d'olive, dès par la provenance d'un arbre béni quelque part, ou alors le miel, par exemple, parce qu'on retrouve dans le Coran une sourate qui parle de ces ingrédients-là. Donc, c'est ça qui était très intéressant quand on discutait aussi de ce lien entre alimentation et appartenance religieuse, et donc comment aussi certains plats, certaines préparations étaient symboliquement importantes pour ce que ça rappelait en termes de récits religieux. Aussi à certains plats qui sont associés à des rites, mais notamment ou certains plats ou certains ingrédients qu'on utilise pour couper le jeûne pendant le mois de Ramadan. Et donc, que ce soit des dattes, que ce soit de l'eau, mais aussi du lait, enfin, ce sont, ou alors du pain, de l'eau et de la farine encore, qui sont des ingrédients qui sont associés, par exemple, à la vie du prophète. Et donc, ça aussi donne une signification particulière à ces ingrédients-là ou à ces plats, ces préparations.
À côté de ça, on voit également le développement des lieux de socialisation, mais aussi la réponse à des besoins qui se font de plus en plus importants, notamment au niveau domestique. Et ces besoins, eh bien, que ce soit au niveau des denrées alimentaires, que ce soit au niveau de la viande halal, donc de la viande qui, dans toute cette phase, dans cette toute première phase de l'immigration, était quand même assez difficile pour ces familles de pouvoir se réapprovisionner, bien qu'il existe en fait quand même des alternatives, des petits commerces qui s'ouvrent, des petites épiceries qui s'ouvrent quand même dans certains quartiers, qui sont d'ailleurs bien connues des familles marocaines et qui viennent des fois de très loin pour essayer de se réapprovisionner en fruits, en légumes, qui viennent de leur pays et qui eux-mêmes en fait mettent aussi en place des stratégies au moment de leur retour dans leur pays d'origine, de prendre avec eux quelques provisions, notamment on pense à tout ce qui peut être séché, tout ce qui peut avoir une conservation plus longue durée, qui sont ramenés aussi dans les valises de ces familles. Et donc une offre qui répond à une demande qui se fait de plus en plus croissante et bien entendu, dans cette deuxième moitié des années 70, on voit vraiment une prolifération de ces commerces qui se développent dans les rues emblématiques, les rues commerçantes, notamment dans les communes bruxelloises de Schaerbeek, donc tout au long de la chaussée d'Acht, à Molenbeek aussi, que ce soit la chaussée de Gand, que ce soit la rue de Ribeaucourt, vraiment des axes qui vont attirer et qui vont permettre à ces familles de reconstituer un tissu social, de reconstituer un réseau de solidarité et bien entendu des lieux de socialisation où on peut se retrouver, où on peut effectivement aussi participer à reconstruire en situation migratoire, voire même post-migratoire, ces repères essentiels. Par rapport aux boucheries, alors là c'est une autre histoire, je le disais, ces familles vont quand même développer des pratiques un peu alternatives pour essayer de se réapprovisionner, alors que ce soit d'abord en essayant de procéder à l'abattage rituel en dehors de la ville de Bruxelles, où des familles entières comme ça s'organisent pour aller se réapprovisionner dans des fermes wallonnes, flamandes, où ils procèdent eux-mêmes à cet abattage rituel et se divisent comme ça la viande qu'ils ramènent. Il y a aussi leur approvisionnement dans les boucheries cachères, qui sont aussi une alternative qui existe assez rapidement. Et puis petit à petit, des bouchers qui vont apparaître dans certains quartiers. Alors, on pense à Bruxelles, on pense à Anvers également. On a les grands, vraiment les grands centres urbains en Belgique où il y a cette dynamique communautaire qui se met en place. Mais en fait, assez rapidement, au début des années 70, on retrouve déjà ces bouchers marocains qui répondent à cette demande qui est bien présente. Et puis vont venir aussi les boulangeries. Ce qu'on constate surtout en collectant les témoignages, notamment des familles marocaines, c'est qu'il existait déjà des pratiques qui consistaient dans les foyers à réaliser le pain qu'ils faisaient cuire. Et puis, progressivement, va se mettre vraiment en marche cette offre. Des fois, qui n'est pas localisée au sein des boulangeries, mais on connaît des foyers où certaines mamans réputées pour leur talent mettent aussi à disposition l'excédent de pain qu'elles réalisent et qui peut être acheté par d'autres familles. Et donc, ça se met un petit peu aussi en place, on va dire, de manière assez alternative, hein, basé un petit peu comme ça sur des réseaux. Et puis, bien entendu, je le disais, une deuxième phase, notamment dans ces fins des années 70, début des années 80, qui s'accompagne en fait de tout le projet qui se réoriente vers l'installation définitive et où on voit des commerces aussi, en fait, qui sont déjà des commerces belges tournés vers la boulangerie, la pâtisserie, qui vont être repris par des familles marocaines qui vont à ce moment-là, effectivement, avoir une offre plus spécifique hein, autour du pain marocain. Hein, là, on le sait, c'est ce fameux pain rond qui va venir s'ajouter sur les étagères à côté de la baguette traditionnelle, à côté du pain français. Et donc, c'est pas du tout une perte, quelque part, de la boulangerie, de la viennoiserie belge, mais plutôt un ajout, une diversification de l'offre où on voit ce pain marocain se rajouter. Et puis pareil, dans le cas de l'immigration turque, hein, on a aussi cette offre très spécifique autour du pain turc qui se développe dans ces commerces et des fois qui est aussi vendu dans les épiceries sans forcément être exclusivement disponible dans les, ce qu'on appelle les boulangeries, pâtisseries, qui se développent par la suite.
Tu avais quand même voilà, tout ce qui va être manioc, banane plantain, toutes ces racines et ces féculents étaient accessibles. Si tu regardes un peu dans nos cultures d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, on mange le foufou. Donc cette boule, cette pâte qui est faite à base de farine de manioc ou de farine de maïs. Et à l'époque, ce n'était pas aussi évident de trouver la farine de manioc ici. Et donc on a commencé à faire ça avec les produits d'Afrique du Nord. Donc on faisait ce foufou avec de la semoule de blé, un peu plus granuleux. Mais les enfants de la diaspora, souvent, ils ont grandi avec ça. Ils connaissaient pas la farine de manioc. Donc, la première fois qu'ils ont goûté avec le manioc, c'est un peu plus caoutchouteux, c'est un goût tout à fait différent. Ils disent, ouais, mais ça, je connais pas, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, tu vois comment ça réinvente un peu une tradition culinaire avec ce qu'on avait à l'époque. Et puis, il y a eu des premières vagues, des deuxièmes vagues dans toutes ces communautés, que ce soit Cameroun, que ce soit Congo, que ce soit Mozambique, Angola, peu importe, toute l'Afrique noire. Et puis, les arrivages sont devenus, dans les boutiques en tout cas, de produits qu'on appelle exotiques, voilà, de produits africains, un peu plus variés, parce que les communautés grandissaient. Il y en a qui venaient venir ça de France. En France, il y a de très grandes communautés, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, etc. Et donc, tous ces marchés, on va commencer à s'approvisionner via des importateurs en France. Donc, l'offre s'est assez vite étoffée, fin des années 80, début des années 90. Plus, n'oublie pas, nous, quand on est arrivés, par exemple, on mange le poisson salé, le macayabo, donc le bacalao, on va dire en portugais, la morue séchée, salée. À l'époque, on était à Saint-Gilles, on descendait vers la gare du Midi et c'était dans les coopératives, dans les magasins portugais, où on achetait ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont introduit en Angola, donc on achetait chez les Portugais. Donc on allait un peu acheter partout où on pouvait, comme ça, dans les autres communautés, des choses qui étaient assez similaires aux nôtres. Et puis au fur et à mesure aussi, les magasins ici entre la gare du Midi, Clémenceau et Matongué, mais voilà, il y en a quelques-uns qui font venir des arrivages entiers d'Afrique centrale, frais, congelés, etc. Donc je pense que ça a été, en tout cas de ma période à moi, depuis que je suis en Belgique, ça s'est assez vite développé. Mais au début, oui, au début, c'était assez compliqué, hein. Au début, les gens ramenaient ça dans leurs valises. Hein. Au début, quand Brussels Airlines était encore un peu moins regardant, waouh, il y avait des viandes fumées, des poissons fumés qui arrivaient dans les valises. C'est clair, c'était comme ça. Des fois, tu avais 3, 4, 5 valises de ce qu'on ne pouvait pas trouver ici.
Au revoir, Dieu fait grâce.
C'est quand même en fait un quartier extrêmement diasporique sur plein d'aspects. C'est que
quartier Clémenceau du coup.
Ouais, quartier Clémenceau, exactement. T'as des coins où tu as tous les magasins d'Afrique subsaharienne, très rarement tenus par des personnes subsahariennes. Ouais. Il y a des magasins d'équipements de cuisine pour l'horeca, pour les professionnels. Donc il y a en fait un écosystème en lien avec la bouffe. Et vraiment, à destination, c'est vraiment de l'Afrique, quoi. Faut pas se mentir. Bon, là, c'est pas visible à l'oral, mais il y a que des noirs dans la rue, en fait. Et ça, c'est rare à Bruxelles de voir ça. C'est ça que j'aime bien avec l'espace diasporique ou le territoire diasporique. C'est que tu as en fait des lieux où en fait tu vois. Enfin, c'est comme si tu étais au bled parce qu'il n'y a que des bledards dans la rue et qu'il n'y a que des personnes africaines qui parlent des langues africaines, que tu entends des fois de la musique africaine, des fois de la bouffe africaine, des restaurants africains, on va voir. Donc voilà, donc c'est un autre Bruxelles qui. En fait, beaucoup de Bruxellois en fait, ne connaissent pas, en vrai. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant ici avec les shops, c'est qu'en fait, tu as toujours les mêmes produits, la même scénographie, en fait, d'une certaine manière, de comment l'étalage est mis, en fait. Donc, en fait, tu as toujours des bananes plantains, des piments, du gombo, des citrons. Ça, c'est les aubergines africaines.
Qui sont blanches,
rondes, un peu comme une petite poire, je sais pas très bien, une petite prune, je sais pas. Du manioc, du taro, des patates douces. Voilà, donc c'est vraiment des bases en termes de marqueurs de cuisine d'Afrique subsaharienne. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours les mêmes configurations.
Roger Douchimé, curateur culinaire, chef en devenir et co-réalisateur du documentaire Roots and Plates, une histoire de la cuisine afro en Belgique.
Les abattoirs, d'ailleurs, c'est tout un truc où, certes, beaucoup de présence de personnes d'Afrique noire, mais pas que, en fait. C'est un lieu, en fait, où il y a énormément de personnes, que ce soit des Polonais, des Roumains, etc. En fait, c'est un truc extrêmement diasporique en son sens, en fait. Parce qu'en fait, tu y vas et tu es sur plein d'aspects, dans des codes diasporiques. Tu n'es plus totalement dans des codes, enfin, tu n'es pas au marché à Malmedy, quoi. Enfin, c'est un autre délire. Parce qu'il y a des produits particuliers avec des producteurs particuliers qui t'amènent ce truc, la viande fumée de chez toi, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que il y a beaucoup de gens qui, pour faire beaucoup de cuisine d'Afrique noire, en fait, a besoin de viande fumée. Et en fait, tu vas aller acheter de la viande polonaise fumée. Parce qu'en fait, c'est eux qui produisent, qui font ça bien. Tu vas aller dans le shop polonais pour prendre de la viande fumée pour faire un plat congolais ou gabonais ou j'en sais rien. Donc, enfin, bref, je trouve ça drôle. Parce qu'en fait, c'est comme si dans les trucs diasporiques, ben en fait, il y a tellement de diversité qu'en fait, cette diversité dans la culture nationale belge, il y a peut-être pas, ou que c'est pas adapté au prix qu'on peut y accéder. Donc voilà, je crois que ça répond à ça. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que et ça, je le vois même dans ma propre famille, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont un peu particulières, que en fait, les gens font soit venir du pays, soit en fait, recréer des petits jardins, des petits lieux, des petits espaces où en fait, il faut cultiver des produits de chez eux. Et ça, je l'ai vu à maintes reprises dans mon entourage. Voilà, je crée mon petit potager, qui est une micro-production d'un petit potager du bled, quoi.
Avec quel produit, par exemple ?
Je l'ai vu avec des aubergines africaines. Donc, en fait, il y a les aubergines dites européennes, donc qu'on connaît pour faire les parmigiana. et tu as, en fait, les aubergines qu'on appelle aubergines africaines, qui sont plus petites, plus amères, blanches. Et en fait, ça, c'est des choses qui poussent en fait en vérité facilement en Europe. Et l'autre jour, je vais chez une de mes tantes, elle a cultivé ça. Je trouve ça drôle. Je me dis, tiens, c'est marrant que tu cultives ça. Mais ça, c'est ça, mais c'est d'autres gens qui font d'autres trucs. Donc, à l'époque, ça pouvait être le maïs, ça peut être les courges. Et en fait, les courges, c'est pas africain. Mais c'est qu'en fait, dans beaucoup de pays, la courge fait partie énormément de la culture, quoi. Et donc, tous ces trucs-là, c'est trouver des réponses à comment avoir encore un peu des produits de mon pays d'origine, comment garder ce lien. Et donc, avec les magasins, qu'il y a de plus en plus. Donc, moi, à un moment, j'habitais à Mons. Pendant longtemps, il fallait aller à tel endroit pour trouver certains produits parce qu'il n'y avait pas à Mons. Et puis, à un moment, à Mons, il y a eu aussi. Et pas un seul magasin, mais deux. Et donc, s'il n'y avait pas dans l'un, il y avait dans l'autre. Et donc, voilà. Donc, il y a des choses comme ça.
Et du coup, toujours dans des magasins spécialisés ou bien aussi dans des supermarchés ?
Non. Ça, c'est que dans les magasins communautaires, quoi. On appelle ça souvent les magasins exotiques à l'époque. Et donc, voilà. C'est un autre sujet. Mais donc, oui, dans ces magasins-là, il y a généralement, pour aujourd'hui, que là où on peut trouver des produits africains. Et donc, il faut que si les gens veulent manger africain, ils doivent faire le pas d'aller dans ces endroits-là.
Alors, j'ai une commande de samoussa viande et donc je viens de finir de les plier et je suis en train de les cuire.
Qu'est-ce
J'ai travaillé effectivement sur les initiatives de soutien aux personnes migrantes, mais aussi les initiatives mises en place par les personnes migrantes, donc pour améliorer leurs conditions, pour revendiquer les droits, etc. Et plus particulièrement, j'ai travaillé avec des membres de la Voix des sans-papiers de Liège. Donc, ce collectif créé par des personnes en séjour irrégulier ici dans la ville de Liège, qui met en place toute une série d'initiatives pour visibiliser leur situation et le fait, la précarité aussi de leur situation, et pour aller à la rencontre des gens et lutter contre les stéréotypes, et aussi évidemment pour revendiquer le droit à la résidence, donc la régularisation en gros. Et donc, dans les initiatives que j'ai pu observer, encore une fois, la cuisine apparaît à un moment donné, donc comme outil des femmes. Évidemment, c'est une pratique genrée, donc c'est un outil que les femmes qui le pratiquent au quotidien peuvent aussi utiliser, encore une fois, pour prendre part à des débats plus larges, des débats donc de l'environnement dans lequel elles vivent. Et donc, avec les femmes de la Voix des sans-papiers, j'ai pu notamment observer, participer à la préparation de certaines tables d'hôtes qu'elles organisaient dans une des maisons dans lesquelles elles vivaient. Donc, des tables d'hôtes étaient organisées et permettaient d'accueillir des personnes externes qui venaient manger, qui amenaient une contribution financière, évidemment, et ce qui permettait donc aux femmes à la fois de montrer un peu leur travail, leur tradition ou ce qu'elles souhaitaient montrer, mais aussi d'avoir un peu d'argent et donc de pouvoir quand même contribuer aux dépenses qu'elles avaient. Donc, ce sont des mamans aussi souvent seules avec des enfants, donc. Voilà. Après, évidemment, il y a des dynamiques particulières aussi dans ces processus-là. Donc, quels sont les choix qui sont faits par rapport aux plats qui sont servis? Comment ces plats doivent répondre aussi à certaines exigences locales ou des goûts qu'on estime chez les participants? Donc, on va peut-être s'orienter vers des ingrédients, par exemple, bio et locaux dans un quartier où ce sont des valeurs quand même importantes. Donc, ou alors, on va diminuer ou augmenter l'usage de certains ingrédients en fonction de ce qu'on attend des autres. Donc, voilà, il y a quand même des dynamiques à prendre en compte. On va peut-être encore une fois préparer un plat que dans l'imaginaire, on associe à la cuisine africaine, encore une fois pour utiliser un mot très large, mais qui correspond, oui, plus ou moins à ce que je faisais à la maison. Mais bon, ça va bien passer, ça va bien parler, donc j'utilise ce plat-là. Donc, il y a ces nuances-là à amener quand même. Mais l'objectif, eh bien, c'est de, encore une fois, se positionner dans certains débats par l'utilisation aussi de la cuisine, donc trouver des espaces de dialogue par ce partage de cuisine, revendiquer ses droits aussi. Ce sont quand même des personnes qui ont du mal à accéder au marché de l'emploi parce qu'elles n'ont pas de statut de séjour et de permis de séjour donc régulier. Donc, ce sont des manières de pouvoir travailler et gagner un peu d'argent pour couvrir ses coûts et ses besoins fondamentaux qui ne sont pas répondus par ailleurs. Et de se dire, en fait, il ne manque qu'un permis de séjour, parce qu'il y a quand même des dynamiques qui sont en place, qui montrent comment ces femmes sont très volontaires par rapport aussi au fait de travailler, de pouvoir subvenir à leurs besoins, etc. Donc,
c'est quoi le secret pour des parfaits samosas, des samosas équilatéraux?
J'avais jamais fait des samosas et vu que je n'avais pas plié, ben j'ai dû m'y mettre et ça m'a pris deux nuits, deux soirs. Et c'est pour trouver la meilleure façon. Et mon objectif, c'était qu'ils se ressemblent tous parce que c'est ça qui est plus compliqué. Et j'ai trouvé mon système et voilà. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent.
Là, tu as la préparation et tu pourras goûter. Si Roger ne les a pas finis.